VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, le monde aujourd'hui. Eric Manelakiza avec vous à ce micro. Au sommaire de cette édition du jeudi 7 septembre 2023, Raymond Dong Sima est nommé nouveau premier ministre de transition au Gabon. C'est peu après l'annonce d'un accord sur une feuille de route pour le retour à la démocratie. Le Burkina Faso n'est pas ennemi du peuple français, déclare le capitaine Ibrahim Traoré, tandis que Emmanuel Macron propose un débat parlementaire sur la stratégie de la France en Afrique et au Sahel. La vice-présidente américaine Kamala Harris dénonce au sommet asiatique l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie, les défis sécuritaires en mer de Chine méridionale et la menace des missiles nord-coréens. Ne manque pas notre page sport. Ainsi que la Minute Echo, pour l'instant, le journal. Au Gabon, le président de la transition, le général Brice Oligui Nguema, a nommé Raymond Dong Sima au poste de premier ministre. Sa nomination suit un engagement des militaires au pouvoir sur une feuille de route pour amener les civils au pouvoir. Nani Tetalani.
Raymond Dong Sima, 68 ans, est un économiste et opposant au président Ali Bongo, renversé par les militaires il y a une semaine. Avant de basculer dans l'opposition, il a été premier ministre de M. Bongo de 2012 à 2014. Il s'est ensuite éloigné du pouvoir, qu'il accusait régulièrement de mauvaise gouvernance, jusqu'à se présenter contre Ali Bongo au présidentiel de 2016 et cette année. Le président de la transition, le général Brice Oligui Nguema, qui a prêté serment lundi, avait annoncé la formation d'un gouvernement de transition comprenant des personnalités de tous bords politiques. Hier, à Libreville, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, émissaire de la Communauté des États d'Afrique centrale, et le général Nguema ont convenu d'élaborer une feuille de route pour restaurer un régime démocratique. Un fonctionnaire de l'entourage du général Oligui Nguema a précisé que les deux hommes se sont mis d'accord sur l'élaboration d'une feuille de route. Ni Touadéra ni le fonctionnaire n'ont donné de détails sur le calendrier ni le contenu de la dite feuille de route.
Un bateau de transport de passagers a été attaqué par de présumés djihadistes ce jeudi sur le fleuve Niger, dans un secteur sous blocus des djihadistes. Le bateau, qui assure une importante liaison régulière entre Tombouctou et Gao, a été visé par au moins 3 roquettes, a dit l'opérateur, la compagnie malienne de navigation. Aucune information n'a été communiquée dans un premier temps sur le nombre de passagers qui se trouvaient à bord, ni sur d'éventuelles victimes. Le Burkina Faso n'est pas ennemi du peuple français, a affirmé hier le capitaine Ibrahim Traoré, président de transition. Le président français Emmanuel Macron s'est engagé à ce que le Parlement puisse débattre dès cet automne de la stratégie de la France en Afrique et au Sahel. Michel Joseph.
Nous ne sommes pas ennemis avec le peuple français. C'est la politique de ceux qui dirigent la France qui pose problème, a déclaré le capitaine Ibrahim Traoré dans un entretien diffusé hier soir par la télévision publique. Il a également remis en question l'efficacité de la présence militaire française dans la lutte anti-djihadiste dont il a exigé le départ en janvier. Nous avons de nouveaux partenaires qui nous appuient en termes d'équipement et autres, a-t-il ajouté sans les nommer. Une délégation russe a échangé avec M. Traoré la semaine dernière à Ouagadougou sur des questions de développement et de coopération militaire. Par ailleurs, Olivia Rouamba, ministre burkinabé des Affaires étrangères, a manifesté lundi le souhait de renforcer la coopération avec l'Iran lors d'un entretien à Téhéran avec le président Ibrahim Raisi. En France, le président Emmanuel Macron s'est engagé à ce que le Parlement puisse débattre dès cet automne de la stratégie de la France en Afrique et au Sahel, où sa présence militaire est contestée dans plusieurs pays. Après le Mali, le Burkina Faso, la France se trouve dans une situation délicate au Niger.
Air France a annoncé ce jeudi avoir prolongé d'une semaine supplémentaire jusqu'au 17 septembre inclus la suspension de ses vols depuis et vers le Mali et le Burkina Faso, les vols à destination du Niger restant arrêtés jusqu'à nouvel ordre. La compagnie française avait suspendu le 7 août ses vols à destination de Bamako, 7 vols par semaine, Ouagadougou, 5 vols par semaine et Niamey, 4 vols par semaine. Au Burkina Faso, la célèbre guérisseuse Amsetou Nikiema, appelée Adja, a été condamnée à 3 ans de prison avec sursis. Son évasion avec l'aide de militaires avait suscité colère et indignation. Elle était poursuivie pour coups et blessures sur un patient. Yacouba Ouedraogo.
Amsetou Nikiema, communément appelée Adja, et ses 8 co-accusés ont comparu devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou. La guérisseuse a été reconnue coupable de complicité de coups et blessures et a été condamnée à 3 ans de prison avec une amende d'1 million de francs CFA, le tout assorti de sursis. Adja avait plaidé non coupable avant de demander pardon pour les sévices infligés par ses collaborateurs, à son insu selon elle, à l'un de ses adeptes. La victime Amidou Kanazoué a refusé de se constituer partie civile, affirmant que l'affaire a été réglée à l'amiable entre les familles. Les 8 collaborateurs, tous condamnés à 48 mois de prison, avec sursis, ont déclaré avoir agi de leur propre gré, sans aucun ordre d'Adja. Elle avait été interpellée après la diffusion le 26 juillet sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant un quinquagénaire battu par ses adeptes à Komsilga, près de Ouagadougou. En attente d'être placée en détention préventive, elle avait réussi à s'évader grâce à des militaires.
Le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, est arrivé ce jeudi au Qatar, ont annoncé les médias d'État du riche émirat du Golfe. Son 3e déplacement à l'étranger depuis le début, le 15 avril, de la guerre avec les paramilitaires. Dirigeant de facto du Soudan, le général Burhan doit rencontrer l'émir Tamim Ben Hamad el-Thani, selon les autorités soudanaises.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, un tribunal fédéral américain a donné mercredi au gouverneur du Texas 9 jours pour démanteler la barrière flottante qu'il a fait installer en juillet sur le Rio Grande afin d'empêcher les traversées de migrants en provenance du Mexique. Le tribunal fédéral siégeant à Austin s'est rangé aux arguments du gouvernement qui réclamait la suspension de la réalisation de cet ouvrage. Le gouverneur républicain du Texas a aussitôt annoncé qu'il faisait appel de cette décision. Le président indonésien Joko Widodo a exhorté aujourd'hui les dirigeants mondiaux à désamorcer les tensions lors du sommet de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, ASEAN, pour se concentrer sur la sécurité et le commerce sous fond de rivalité croissante entre grandes puissances. Jean-Roger Bion.
Nous avons tous la responsabilité de ne pas créer de nouveaux conflits, de nouvelles tensions, de nouvelles guerres. Et dans le même temps, nous avons également la responsabilité de réduire les tensions, a déclaré Joko Widodo, qui préside cette année le bloc des 10 membres de l'ASEAN. L'Indonésie et d'autres pays d'Asie du Sud-Est ont mis en garde cette semaine contre les rivalités destructrices entre les grandes puissances, faisant référence aux tensions entre les États-Unis et la Chine, qui selon eux les mettent en danger. Mercredi, le premier ministre chinois Li Qiang a mis en garde contre le déclenchement d'une nouvelle guerre froide et a déconseillé au pays de prendre parti dans un quelconque conflit. La Chine et le Japon revendiquent tous deux un petit groupe d'îles en mer de Chine orientale. Pour sa part, la vice-présidente américaine Kamala Harris, qui représente le président Joe Biden, a souligné l'opposition des États-Unis aux changements unilatéraux du statu quo en mer de Chine méridionale et orientale lors de ses rencontres avec le premier ministre japonais Fumio Kishida et le président philippin Ferdinand Marcos, a déclaré un porte-parole de la Maison-Blanche.
Le premier ministre indien Narendra Modi a déclaré ce jeudi que les dirigeants du sommet du G20 qu'il préside ce week-end à Delhi doivent aider financièrement et technologiquement les pays en développement à lutter contre le changement climatique. Dans un contexte de température record et meurtrière à travers le monde, les militants pour le climat n'ont de cesse de s'alarmer, en particulier pour les pays en développement si le G20 ne parvient pas à un consensus. Le président Emmanuel Macron va faire aux chefs de partis politiques une proposition sur une simplification du recours au référendum qui pourrait alors s'appliquer à l'immigration, thème toujours sensible en France. Le projet de loi immigration pourra éventuellement faire l'objet d'un référendum en cas d'accord sur une révision constitutionnelle pour en modifier le champ. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco, présentée ce soir par Nathalie Barge.
En clôture du sommet africain sur le climat hier à Nairobi, les dirigeants du continent ont appelé la communauté internationale à les aider à faire fructifier le potentiel de l'Afrique dans la lutte contre le réchauffement climatique via des investissements et une réforme du système financier international. Ils demandent un nouveau mode de financement adapté aux besoins de l'Afrique et l'allègement de la dette. Les participants ont affirmé leur volonté d'augmenter la production d'énergie renouvelable de 56 gigawatts à 300 gigawatts d'ici 2030. 23 milliards de dollars d'investissement ont été promis durant les trois jours de sommet, dont 4,5 milliards des Émirats arabes unis pour les énergies propres. Les questions climatiques se poursuivent ce week-end avec un sommet du G20 en Inde et culmineront avec la COP28 à Dubaï fin novembre. Fin août, le Premier ministre indien Narendra Modi avait dit souhaiter que l'Union africaine devienne membre du G20 qui ne compte comme pays africain que l'Afrique du Sud. En décembre, le président américain Joe Biden avait déjà émis ce souhait. Nous sommes impatients d'accueillir chaleureusement l'Union africaine en tant que membre permanent du G20, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale à la Maison Blanche, Jake Sullivan, estimant que cela rendra le groupe plus fort.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Les matchs de la dernière journée des éliminatoires de la prochaine CAN en Côte d'Ivoire se poursuivent.
8 matchs à grand enjeu dans le groupe E entre le Ghana et la République centrafricaine. Les Black Stars, leaders de leur poule, ont besoin d'un nul pour se qualifier. S'ils perdent la rencontre, la République centrafricaine se qualifierait pour la première CAN de son histoire. Dans l'autre rencontre de cette poule E, devant Madagascar, l'Angola a besoin d'une victoire pour s'assurer d'être à Abidjan. Dans le groupe F, le Niger, déjà éliminé, fait face à l'Ouganda, troisième avec un mince espoir de qualification. En cas de victoire, toujours dans cette poule F, l'Algérie qualifiée joue contre la Tanzanie. Qualifiée aussi, la Tunisie affronte le Botswana.
Enfin, la Coupe du monde de rugby débute demain, 8 septembre, en France.
20 équipes, dont l'Afrique du Sud et la Namibie, sont en lice. Les Springboks sud-africains, champions en titre, se lancent dans la défense de leur trophée, mais ils auront sur leur chemin des nations aguerries et bien préparées. L'Irlande, la Nouvelle-Zélande, la France ou à nouveau l'Afrique du Sud. L'issue du mondial de rugby 2023 s'annonce plus indécise que jamais, avec 4 favoris à l'heure du coup d'envoi vendredi entre les All Blacks, triple champion du monde, et les Bleus, armés pour un premier sacre tenant du titre. Les Springboks font partie des favoris de cette compétition. Dwayne Vermaelen, attaquant de l'Afrique du Sud.
Je pense que la Coupe du Monde de cette année est probablement la plus ouverte qui soit. Tout le monde a parlé de l'équipe de France, certains ont parlé de la Nouvelle-Zélande, d'autres de l'Écosse et d'autres encore de l'Afrique du Sud. Cette année, c'est tout simplement ouvert et tous ceux qui jouent doivent saisir leur chance et, avec un peu de chance, nous verrons qui arrivera en finale.
Who make it to the final.
Les Sud-Africains sont conscients d'une chose, leur premier match face à l'Écosse le 10 septembre à Marseille sera déterminant. Dion Davis, entraîneur adjoint de l'Afrique du Sud.
L'Écosse est une équipe de premier plan dans cette compétition. Nous pensons que chaque match sera difficile. Chaque équipe qui jouera dans cette compétition sera compétitive. Pour nous, c'est évidemment un grand défi. Je pense que pour l'Écosse, c'est aussi un grand défi.
Le sélectionneur des Springboks a affirmé qu'une défaite lors de ce premier match pour son équipe ne serait pas rédhibitoire pour la suite de la compétition, comme ça a été le cas pour les Sud-Africains au Mondial 2019 au Japon. Après son entrée en lice face à l'Écosse, l'Afrique du Sud affrontera la Roumanie puis l'Irlande et les Tonga. Le vainqueur sera connu le 28 octobre.
Et c'est tout pour les sports. Merci, Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, de retour avec vous, Eric Manirakiza. Place au dossier du jour. Au Gabon, Touadéra et Oligui s'accordent sur un retour à l'ordre constitutionnel après le coup de force militaire du 30 août dernier. Avant de mettre un terme à sa mission à Libreville, l'envoyé spécial de la communauté économique des États de l'Afrique centrale a eu une importante séance de travail avec tous les corps intermédiaires de la société gabonaise. Le président centrafricain qui a regagné Bangui cet après-midi n'a pas fourni de détails sur le contenu de son compromis avec le président du comité pour la transition et la restauration des institutions. Le point de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Autour de Touadéra, des religieux, quelques représentants du corps diplomatique en poste à Libreville, la société civile et les acteurs politiques témoins du coup de force militaire du 30 août dernier au Gabon. Le facilitateur désigné par la communauté économique des États de l'Afrique centrale achève une mission de près de 48 heures avec l'ensemble des forces vives du pays pour discuter d'un retour à l'ordre constitutionnel dans les meilleurs délais. Raymond Donsima, ancien candidat à l'élection présidentielle et actuel Premier ministre.
Nous avons profité de cette occasion pour dire à notre tour ce que nous attendions de lui.
Face à la médiation sous-régionale, l'opposition, déjà fragilisée par des dissensions internes, appelle à une transition militaire de courte durée à la tête du pays. Mais sa demande reste encore loin des préoccupations de la junte au pouvoir. Paulette Misambo, présidente de l'Union nationale.
Nous avons toujours milité pour la promotion de la démocratie. Donc évidemment, quand c'est des hommes en kaki, on est un peu dubitatif.
Sur cette nouvelle ère qui s'ouvre au Gabon, les doutes et les espoirs de l'opposition sont aussi partagés par les acteurs de la société civile. Elle s'est dit en phase avec la situation du moment. Geoffroy Fumbula Libeka, porte-parole du Copil citoyen.
Nous ne félicitons pas un coup d'État, mais nous prenons acte du coup d'État. Si ce coup d'État n'aurait pas intervenu, nous aurons sûrement assisté à un bain de sang. Parce que comme en 2016, nombreux Gabonais seront sortis dans la rue avec tout l'impact qu'il y a derrière.
Le Gabon sort donc de très loin avec un putsch sans effusion de sang. L'heure d'un débat inclusif a sonné sur la mise en place progressive des institutions et l'organisation des élections transparentes, libres et crédibles. Une feuille de route qui doit préparer le transfert du pouvoir aux civils. Marco Naesangi, président de l'ONG, tournant la page.
Nous avons émis un document qui comporte nos différentes doléances, à savoir la préservation de la paix, le caractère inclusif de tout ce qui va se faire dans le cadre de cette transition.
Grand absent de ce tour de table, l'ex-parti au pouvoir, le Parti démocratique gabonais, est resté discret depuis la chute de son chef. Faustin Archange Touadéra, l'envoyé spécial de la CAC à Libreville, a obtenu du comité militaire la remise en liberté d'Ali Bongo Ondimba, assigné à résident surveillé au lendemain de sa destitution le 30 août dernier. Ismaël Obianzé pour VOA Afrique, Libreville.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Au Niger, depuis le renversement du régime du président Mohamed Bazoum le mois dernier, des manifestations de soutien aux nouvelles autorités sont organisées. Au-delà des soutiens, les manifestants expriment aussi des attentes vis-à-vis des militaires. Dans le reportage qui suit, notre correspondant Abdelrazak Idrissa évoque celle des femmes constituant plus de la moitié de la population nigérienne.
Dans les foules de manifestants, elles sont très nombreuses à battre le pavé depuis les événements du 26 juillet dernier pour diverses motivations. Amina a perdu son époux dans une attaque terroriste. Elle a pris part à une des manifestations avec son enfant pour exprimer sa colère, ce dont elle n'avait pas la possibilité avant, dit-elle. Défenseuse des droits humains, le centre d'intérêt de Naomi Binta est ailleurs.
Au-delà de tout ce que nous sommes en train de demander, par exemple le départ de troupes françaises, le lever des sanctions de la CEDEAO, et nous sommes aussi contre l'intervention des militaires étrangers au Niger à notre sort. Nous voulons la paix. Nous voulons un président qui va remettre réellement les Nigériens au travail, qu'ils soient civils, qu'ils soient militaires, que le Niger ne soit pas le dernier tout le temps.
Aboubakar Zakari Safiatou milite, elle, pour la cause des femmes. Elle attend des autorités de transition la pérennisation des acquis des femmes, notamment sur leur participation aux instances de décision.
Que ces acquis issus de longues luttes soient pérennisés et que les autorités de la transition prennent cela en compte. Donc qu'ils fassent appel à ces femmes et que à tous les niveaux de représentation qu'on sente la présence des femmes.
Le souci de Abdou Marietou, maire et fonctionnaire, reste la satisfaction des services sociaux de base.
Les écoles ne marchent pas. À l'hôpital, même les premiers soins, ils manquent. Et tout ça, c'est les femmes qui en pâtissent le plus. Aujourd'hui, plus de 600 écoles sont fermées. On attend de la réouverture de ces écoles pour que ces enfants-là, c'est leur droit d'aller à l'école. Il faut que ces enfants partent à l'école. Au niveau de l'économie, si les femmes sont bien dotées, je pense que l'économie sera boostée et le développement assuré.
Selon les données de l'Institut national de la statistique, sur les plus de 27 millions de Nigériens en 2023, les femmes représentent le plus grand nombre. Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Togo, les commerçants et les exportateurs de soja sont en difficulté. Ils ne sont pas arrivés à écouler toute leur production cette année. Ils subissent la pression des banques pour le remboursement des crédits qui leur ont été accordés. Une rencontre entre les deux parties a eu lieu pour trouver un terrain d'entente. Delomé, notre correspondant Kossi Oussou.
Ce sont des dizaines de milliards que les commerçants et exportateurs du soja doivent aux banques et institutions de microfinance du pays. Cette dette est consécutive à la gestion catastrophique de la saison de commercialisation de la céréale au Togo. Kofi Tiakpogli, secrétaire général de l'Association nationale des commerçants et exportateurs de soja.
En 2022-2023, nous avons constaté un retard en ce qui concerne la signature des agréments. Au lieu que ces agréments nous soient signés à partir d'octobre, les agréments ont été signés en décembre et transmis aux acteurs vers fin décembre. Et donc, le retard de lancement de la campagne. Secondo, beaucoup d'unités de transformation sont installées, mais malheureusement, ces structures ne sont pas arrivées à transformer toute la graine comme ils l'ont prévu.
À cela, il faut ajouter l'effondrement des prix du soja sur le marché mondial. La conséquence, environ 80 000 tonnes de soja sont toujours en stock. Ceci ne permet pas aux commerçants et exportateurs d'honorer leur engagement vis-à-vis des banques qui les ont financées à coups de milliards de francs CFA. Une rencontre des deux parties a permis d'arrondir les angles. Magloire Eglomassé de la IB Bank Togo.
Nous le savons, nos partenaires ont eu des difficultés pour la campagne 2022-2023 et ils ont voulu partager ces soucis-là avec nous, les banques. Nous-mêmes, nous sommes conscients. Et ils nous ont rassurés qu'avec leurs partenaires, ils sont toujours en discussion pour exporter le stock restant. Donc, dès qu'ils vont exporter, on va les payer. Puis je pense que les crédits seront bien dénoués.
Se référant aux deux dernières campagnes où les prix ont atteint des sommets inimaginables, Gustave Bakunda du Conseil interprofessionnel de la filière soja est optimiste pour l'avenir.
Comme dans toute économie et surtout lié à des commodités, et lorsque on connaît des situations de prix très élevés, s'ensuit un enlisement pour que le prix de façon progressive revienne donc à une stabilité. Et donc nous pensons que ce qui s'est passé passé est une situation conjoncturelle. La filière va se stabiliser et donc revenir à sa situation initiale.
Pour ne plus vivre le cauchemar de la saison écoulée, les acteurs de la filière ont pris des dispositions, surtout pour la demande d'agrément. Kofi Tchekpogli de l'Association nationale des commerçants et exportateurs de soja.
Nous avons anticipé sur la demande des agréments. Les années passées, les demandes se faisaient entre septembre et octobre. Mais aussi aujourd'hui, nous avons prévu arrêter la demande des agréments au 11 septembre. Et le service chargé d'étudier ces agréments travaillera du 20 septembre jusqu'au 25 septembre pour transmettre ces dossiers au ministère pour avoir cet agrément en début octobre.
Les acteurs de la filière soja peuvent aussi compter sur l'opérationnalisation de la plus grande usine de transformation de soja du pays d'une capacité de 50 000 tonnes. Kossi Wusu, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
La capitale tanzanienne Dar es Salaam abrite un sommet du Forum sur les systèmes alimentaires en Afrique. Il est considéré comme première plateforme pour faire avancer l'agenda de l'agriculture et des systèmes alimentaires durables sur le continent, de la sécurité alimentaire aux investissements agroalimentaires. Les solutions de l'Afrique pour la transformation des systèmes alimentaires met l'accent sur la construction de systèmes alimentaires et de souveraineté alimentaire améliorée avec les jeunes et les femmes au cœur de l'initiative. Le thème identifie trois étapes nécessaires pour réaliser cette transformation: rétablir, régénérer et agir. Pour en parler, VOA Afrique s'est entretenu avec Paul Massek, vice-président adjoint de Chorus International.
La conférence discute sur le thème récupérer, régénérer et agir, les solutions africaines pour la transformation des systèmes alimentaires. Bon, ce que je m'entends beaucoup cette semaine, c'est l'importance d'adopter l'agriculture africaine au changement climatique. Les inquiétudes concernent le rythme d'innovation dans le secteur agricole et les effets persistants de la guerre Ukraine sur les prix alimentaires et l'inflation en général en Afrique.
À votre avis, est-ce que l'Afrique peut avoir des moyens suffisants pour nourrir sa population, ou est-ce qu'il existe des défis spécifiques à relever?
Absolument. L'Afrique peut facilement se nourrir elle-même. Elle a des ressources naturelles, elle a une population très jeune et elle a surtout la terre disponible pour faire pousser l'agriculture et faire marcher des actions envers la croissance économique. Bon, il y a quand même quelques statistiques qui existent, telles que l'Afrique représente 18% de la monde, de la population mondiale entière, mais elle a à peu près 40% de la pauvreté mondiale, 35% de la population à risque de l'insécurité alimentaire. Mais, par contre, elle a des possibilités extrêmes pour justement se nourrir à travers sa population, sa disponibilité de terres cultivables et un secteur privé très dynamique.
Croyez-vous que le sommet a apporté des solutions ou une feuille de route pour faire face à ces défis?
Je crois que le sommet commence à prendre connaissance de l'importance de travail qu'on est en train de faire. Bien sûr, une feuille de route a déjà été construite et nous sommes en pleine feuille de route. Et je crois que ça marche malgré les défaillances, surtout au niveau des collaborations et des partenariats. Et en fait, moi je suis ici, il y a plus que 7000 délégués qui participent. Il y a des chefs d'État et des ministères de l'agriculture qui sont très impliqués dans les solutions. Donc je crois que avec cette population, des bailleurs de fonds, des ONG, soit des ONG internationales, la société civile et des ONG locales, avec le secteur privé, peuvent vraiment mettre en marche les solutions durables et surtout sur cette feuille de route.
Paul Massek, vice-président adjoint de Chorus International. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Eric Manilakiza à ce micro. À la mise en onde, Georges et Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes et à la prochaine.